Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, ce nom précieux. Et je vous invite à prendre vos Bibles. Nous continuons notre parcours dans le livre de Néhémie. Et nous sommes arrivés à Néhémie 12. Néhémie 12. Voici les prêtres et les lévites qui était revenu de déportation avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Séraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Hattush, Shekania, Réhum, Méromoth, Ido, Guinétoï, Abija, Mijama, Madia, Belga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Salu, Amok, Ilkija et Jedaja. Ceux-ci étaient des chefs des prêtres et de leurs frères à l'époque de Josué. Pour les Lévites, il y avait Josué, Binéum, Kadmiel, Chérébia, Judas, Matania, qui étaient responsables des chants de louanges avec ses frères, ainsi que Bakukia et Uni, leurs frères, qui les assistaient en fonction de leurs responsabilités. Josué a eu pour fils Jojakim. Jojakim a eu Eliashib. Eliashib a eu Jojada. Jojada a eu pour fils Jonathan. Et Jonathan a eu Jadua. Voici les prêtres qui étaient chefs de famille à l'époque de Jojakim. Pour la famille de Séraja, Méraja. Pour celle de Jérémie, Anania. Pour celle d'Esdras, Meshulam. Pour celle d'Amaria, Joshanan, pour celle de Melikou, Jonathan, pour celle de Shebania, Joseph, pour celle de Harim, Adna, pour celle de Merajot, Elkaï, pour celle d'Ido, Zacharie, pour celle de Guinétan, Meshulam, pour celle de Dabija, Zikri, pour celle de Mijamin et Moadia, Piltai, pour celle de Bilga, Shamua, pour celle de Shemaja, Jonathan, pour celle de Jojarib, Matnaï, pour celle de Jedaja, Uzi, pour celle de Salaï, Kalaï, pour celle d'Amok, Héber, pour celle de Ilkija, Achabia, pour celle de Jedaja, Nathanaël. Sous le règne de Darius de Perse, le Perse, on a enregistré par écrit le nom des Lévites qui étaient chefs de famille à l'époque d'Eliashib, de Jojada, de Joshanan, de Jadua, de même que celui des prêtres. Le nom des Lévites, chefs de famille, a été inscrit dans les annales jusqu'à l'époque de Joshanan, descendant d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, ainsi que leurs frères qui les assistaient, étaient chargés de louer et célébrer l'Éternel à tour de rôle, suivant l'ordre de David, l'homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, qui étaient portiers, avaient la charge des provisions situées près des portes, et ce à l'époque de Jojakim, le fils de Josué et petit-fils de Josadak, ainsi qu'à celle du gouverneur, Néhémie, et du prêtre et scribe Esdras. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites, où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants de louanges au son des cymbales, des luths et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages de Néto-Patien, de Beth-Gilgal, ainsi que du territoire de Geba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se sont purifiés eux-mêmes. Puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter des chefs de Juda sur la muraille et j'ai mis en place deux grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille, vers la porte du fumier. Derrière lui marchait Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Semaja et Jérémie, ainsi que parmi les prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan et descendant de Semaja, Matania, Miché, Zakur et Azaph, avec ses frères Shemaja, Azariel, Milalai, Gilalai, Maï, Nathanaël, Judas et Anani qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu, le scribe Esdras marchait à leur tête. À la porte de la source, ils ont gravi droit devant eux par des marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux située à l'est. Le deuxième cœur a pris la direction opposée. Je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille passant au-dessus de la tour des fours. Il est allé jusqu'à la muraille large et a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Haneb et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les deux cœurs ont pris place dans la maison de Dieu et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient, ainsi que les prêtres Eliakim, Masséja, Benjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania, muni de trompettes, et Masséja, Semaja, Eliazar, Uzi, Joshanon, Malkija, Elam et Ezer. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jizraja. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances. Et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes, et on les a chargés d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux lévites au nom des divers territoires. En effet, Judas se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et des purifications. Quant aux musiciens et aux portiers, ils respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. En effet, à l'époque de David et d'Asaph déjà, cela faisait bien longtemps. Il y avait des chefs de musiciens ainsi que des chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel, comme à celle de Néhémie, tous Israël faisait don des parts journalières destinées aux musiciens et aux portiers. Il donnait aussi aux Lévites et les éléments sacrés, et les Lévites les redistribuaient aux descendants d'Aaron. Amen. On va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour cette source d'eau vive, Seigneur. Seigneur, nous remettons encore ce moment entre tes mains, Seigneur. Merci pour le moment qui a précédé, Seigneur, mais aussi pour ce moment, nous te remercions. Seigneur, prends possession de nous afin que, Seigneur, cette parole entre en nous et nous fasse agir selon ta volonté. Et Seigneur, nous annulons, Seigneur, toutes les flèches de l'ennemi contre nous maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsqu'on lit ces textes, on peut se demander quel est l'enseignement que le Seigneur veut nous donner à travers ce que nous venons de lire. La parole de Dieu est toujours une source absolue, extrêmement riche et beaucoup de temps pour arriver à comprendre les profondeurs de ce Dieu qui nous a tant aimés. Dans Ézéchiel 3, verset 1, le Seigneur dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce livre. C'est surprenant de voir un Dieu qui appelle ses enfants à manger quelque chose qui, s'il faut prendre sur le plan terrestre, ne se mange pas. Mais c'est quelque chose de spirituel. La Bible se mange, elle se dévore pour bien comprendre la pensée de Dieu et pour bien être en action sur ce que Dieu attend de nous. Vous avez remarqué dans les textes que nous venons de lire que le temple était composé de plusieurs portes. Même les portes, les noms des portes du temple étaient des noms prophétiques. Nom de la porte de la source, porte des brebis, porte des poissons. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, nous savons que toutes ces portes se résument en une seule qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui l'unique porte par laquelle on entre en présence de Dieu. Dans le chapitre 12, le peuple d'Israël revient de captivité. Je vous rappelle juste que vous devez avoir en mémoire que Dieu a dit à Israël, ne va pas vers l'idolâtrie parce qu'il y aura des conséquences. Les premières conséquences ont été le fait qu'ils ont été assujettis à d'autres peuples. Ils ont été dominés par d'autres peuples. Israël s'est repenti, mais il est reparti dans l'idolâtrie. Ensuite, Dieu leur a donné la prophétie qu'à part le fait d'être dominés, désormais, ils vont être exilés. Et quelqu'un comme Néhémie n'est pas né à Jérusalem, il est né à Babylone. Il est né sous la captivité. C'est le malin qui essaye de nous rendre captifs par le péché. Et le péché a toujours des conséquences. Et Dieu, dans sa grâce, va faire revenir le peuple. Et lorsqu'on lit ces versets, on voit qu'on parle beaucoup de quelqu'un comme Zorobabel. Zorobabel était le grand prêtre de l'époque de Néhémie. Je vous rappelle que Néhémie n'était ni prêtre, Néhémie n'était qu'un gouverneur à qui Dieu avait mis dans le cœur de mettre à l'œuvre la parole qui était écrite, la parole qui avait été transmise aux ancêtres. Néhémie avait à cœur de le mettre en marche, cette parole, dans la vie du peuple juif. Et c'est une grâce que Dieu a fait à ce peuple. Qu'il y ait des hommes qui se lèvent pour dire « Nous voulons respecter ce que Dieu a dit malgré l'exil que nous vivons aujourd'hui. » Dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique 24, on voit comment David avait aidé les Lévites à travailler. Je vous rappelle que les Lévites étaient ceux qui étaient destinés à travailler pour le temple. Et la répartition du travail des Lévites, c'est un travail que David avait fait en son temps, que Salomon a poursuivi, son fils. Et du coup, les Lévites savaient quelles étaient les différentes tâches qu'ils devaient faire. Et même dans la captivité des Juifs, vous remarquerez qu'il y a une véritable grâce, c'est qu'à un certain moment, les Babyloniens avaient pris les ustensiles qu'ils ont fait sortir du temple, et Dieu a fait grâce que les ustensiles reviennent. Parce que tous ces éléments étaient importants pour faire le culte à Dieu. On ne pouvait pas faire le culte de Dieu comme ça. Il fallait qu'il y ait certains éléments. Et là, après avoir tout réuni, tout récolté, ils vont faire une véritable dédicace. Ils vont dédier le temple, les murailles à Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que je vous rappelle que c'est un peuple complètement déraciné. Un peuple qui avait déserté Jérusalem, qui revient rebâtir les murailles, rebâtir le temple avec Esdras. Les livres d'Esdras et de Néhémie sont à lire en parallèle pour bien comprendre ce qui est fait en ce moment-là et pour bien comprendre comment Dieu restaure ou comment Dieu rebâtit quelqu'un. Parce qu'il est essentiel que les murailles soient rebâties en même temps que le temple soit rebâti. Les murailles protègent de ce que l'ennemi veut faire. Une ville fortifiée, en ce temps-là, était une ville qui avait des murailles. Aujourd'hui, une ville fortifiée ou un homme fortifié, c'est un homme qui a la foi, parce que la foi est ta muraille. Et donc, c'est Dieu qui rebâtit ta foi. Et c'est pour ça que cette histoire est importante pour nous à comprendre, pour nous aider aussi à rebâtir notre foi. La première des choses que nous enseignent ces textes, c'est de comprendre quelle est la source de ta joie. Le peuple va faire une célébration. Ils vont célébrer parce qu'ils ont achevé le travail. Parce que désormais le temple a été restauré, les murailles ont été restaurées, mais vous voyez les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde est dans la joie. Mais pourquoi sont-ils dans la joie? Est-ce le temple? Est-ce la muraille? Qu'est-ce qui fait leur joie? Ce qui fait leur joie, c'est Dieu. Mes chers amis, ne vous y trompez pas. Le début de la foi, c'est Dieu. Ce qui fait ta joie, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que tu as sur cette terre qui fait ta joie. Ce qui fait ta joie, c'est le Seigneur. Et j'aime le Seigneur parce que même lorsque Jésus vient, les mages vont venir voir Jésus et les mages vont apporter des choses pour montrer que cet enfant fait la joie. C'est Jésus qui fait la joie. Dans Matthieu 2, verset 11, il nous est rappelé que les mages arrivent et ils vont apporter l'or, l'encens et la myrrhe. L'or a une signification, c'est pour la divinité. C'est parce que cet enfant est Dieu qu'on lui apporte de l'or. Même dans les nations idolâtres, l'or était beaucoup utilisé pour vénérer un Dieu. C'est Jésus qu'on vénère. Ensuite, on lui apporte de l'encens. Là aussi, c'est prophétique. L'encens, c'est pour le culte. C'est Jésus qu'on prie. C'est Jésus qu'on adore. Il doit avoir la première place. Ensuite, on lui apporte un troisième élément, la myrrhe, pour comprendre que cet enfant mourra. Parce que la myrrhe était utilisée pour embaumer les corps. Cet enfant mourra. Dès le début, la prophétie est annoncée. Mais qui étaient ces mages pour savoir qu'il fallait apporter ces trois éléments? Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce et désormais, nous devons comprendre que notre culte, c'est le Seigneur. Il faut que Jésus ait la première place dans ma vie. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Qu'est-ce qui fait ma joie? Qu'est-ce qui peut m'attrister? Qu'est-ce qui peut nous éloigner de l'amour de Dieu? Notre source de joie n'est personne d'autre que celui-là qui est allé à la croix pour chacun d'entre nous. Et il est mort pour que nous ayons la vie. Que le diable ne te trompe pas sur le sacrifice de Jésus, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu peux être dans un temple. 1 Pierre 1, versets 8 à 9. Il nous est dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. L'apôtre Pierre parle d'une joie indescriptible. La rencontre avec Jésus-Christ est une rencontre de joie indescriptible. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à l'homme plus que la rencontre de son Créateur? Qu'est-ce qui peut faire plaisir à l'homme plus? C'est un rappel pour nous tous de bien nous souvenir qu'est-ce qui fait l'objet de ta joie ce matin. Si tu as des questions, si tu as des demandes vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur te pose cette question ce matin. Quel est l'objet de ta joie? Je remercie le Seigneur parce que l'enseignement de sa parole est un enseignement qui peut nous montrer dans notre marche dans la foi. L'apôtre Paul qui disait que la foi, tu es dans une course, il faut que tu arrives jusqu'au but, mais il ne faut pas que tu t'arrêtes. C'est une marche, la marche chrétienne est une marche. Et ce que fait le malin, c'est qu'il vient pour essayer de nous arrêter dans la marche, mais même plus encore, pour nous faire reculer dans l'autre sens. Alors que nous avons pris un sens bien précis. C'est très important que tu te rendes compte de l'objet de ta joie ce matin. Quel est l'objet de ta joie? C'est très important parce que, mes bien-aimés, il se peut que ta foi n'est pas encore naissante. Si Dieu n'est pas l'objet de ta joie, ta foi n'est pas encore née. La naissance commence par Dieu comme objet de toute ma réjouissance. C'est le Seigneur. Il n'y a que lui. J'aime le Seigneur parce que il y a dans la Bible des hommes à qui on pouvait dire qu'ils avaient tout. Le roi David, on pouvait dire qu'il avait tout. Il était roi, il avait des sujets à ses pieds, il pouvait donner des ordres à qui il voulait. Et je me suis toujours demandé, mais David a fait des choses difficiles. Il a pris la femme de quelqu'un d'autre, qu'il a d'ailleurs fait tuer, parce qu'il l'a envoyé au combat. Mais pourquoi Dieu dit-il que c'est l'homme selon le cœur de Dieu? Une chose m'a beaucoup choqué dans la vie de cet homme. C'est que c'était un roi qui se mettait à genoux tous les matins pour adorer Dieu. C'est surprenant. C'est surprenant de voir quelqu'un qui a été élevé, qui est au-dessus des autres, mais qui voue un culte journalier à Dieu. Et j'ai compris pourquoi Dieu dit que cet homme a mon cœur, parce qu'il m'adore. Malgré tout ce qu'il a, il m'adore. David n'adore pas Dieu parce que Dieu l'a fait roi. David adore Dieu parce que c'est la source de sa joie. Ainsi, il est le premier roi à danser, un roi qui danse. Remarquerez que les présidents d'aujourd'hui ne dansent pas bien. Le dernier que j'ai vu danser, c'est le président Obama, qui s'est excusé en disant qu'il n'avait pas les bons pas de danse. Mais David est celui-là qui danse pour la gloire de Dieu, mes amis. Et pourtant, il avait tout. Mais il savait que c'était pour son Seigneur qu'il fallait qu'il le fasse. J'aime la parole de Dieu parce que lorsqu'elle te dit quelque chose, c'est toujours accompagné d'une promesse. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Fais de l'Éternel tes délices. Quelle est la promesse qui vient après? Il te donnera ce que ton cœur désire. Mes chers amis, une révélation peut-être ce matin. Si tu n'as pas encore ce que ton cœur désire, ça veut dire que l'Éternel n'est pas encore tes délices. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais quels sont donc les délices de l'Éternel? Quelle est donc la source que nous pouvons trouver en Dieu? Mais c'est notre temps de prière. C'est notre temps de lecture biblique. Ces choses, nous devons les faire avec... Ça doit être délicieux pour nous de lire la parole de Dieu. Ça doit être délicieux de venir prier dimanche matin. C'est un délice. Ça doit être délicieux de participer à la réunion de prière jeudi à 19h15. C'est un délice qu'on ne raterait pour rien au monde. Il n'y a plus de RER. La neige tombe. C'est un délice. Moi, je vais aller prier. C'est délicieux, la prière. Ça me fait du bien. Ce matin, je dis à quelqu'un que tes sujets de blocage tombent. Que Dieu devienne ton délice. Une autre chose qui nous est révélée par ces écrits que nous lisons dans Néhémie 12, c'est de voir que le peuple est dans une joie immense et cette joie va toucher tous ceux qui sont là et Dieu va être honoré. Lorsque Dieu est honoré dans une vie, on peut se souvenir de comment Dieu entre dans une vie. Et un des textes qui nous vient à l'esprit lorsqu'on voit autant de joie, autant de trompettes, autant de chants, je rappelle que même la marche du peuple est synchronisée, le peuple est divisé en deux. Si vous voyez à quoi ressemble la muraille de Jérusalem, vous verrez que c'est comme si ça formait un carré et chacun va aller dans un sens et ils vont se rejoindre. C'est vraiment une fête extraordinaire que le peuple juif fait pour le Seigneur. Mais j'aime ces paroles parce que toutes ces paroles ne sont que prophétiques. Un homme va arriver devant Jérusalem, assis sur l'âne. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce que vous voyez dans Néhémie n'est que l'annonce de celui qui vient. qui est porteur de paix, Luc 19, versets 28 à 44. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et emmenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent, tout comme Jésus le leur avait dit, comme il détachait l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, ils approchaient de Jérusalem vers la descente du Mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'enterreront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te seront de tous côtés, et te serrant de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Jésus entre dans Jérusalem. Le peuple est dans la joie. Mais remarquez deux choses. Malgré cette joie, malgré ce triomphe, les pharisiens vont s'opposer et vont lui poser des questions. Mais cette entrée triomphale était déjà annoncée dans l'Ancien Testament, puisqu'il est dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » À Jésus, on rend un culte. Les pharisiens ne pouvaient pas arrêter le peuple. Parce que quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, Satan ne peut pas l'arrêter. Remarquez maintenant l'analogie. C'est un ânon que Jésus prend. Nous avons vu la prophétie de Judas. Il est dit que le Shiloh sera sur l'âne. Le Shiloh qui n'est autre que Jésus. Mais cet ânon, il faut que tu comprennes que c'est toi et moi. Cet ânon a été détaché parce qu'il était attaché au péché. Cet ânon est détaché pour que Jésus le prenne. Et tout à l'heure, vous voyez même dans les témoignages, on voit la puissance de la rencontre de Christ avec un homme. Christ veut te rencontrer. Et ce matin, si tu n'as pas encore choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à venir à la fin du culte, parce que les temps sont courts. Et Jésus, ce matin encore, t'appelle à venir à lui. Jésus va dire une prophétie sur Jérusalem. Jérusalem sera détruite, elle sera attaquée. Et tout ce que Jésus dit est vérité. C'est ce qui se produit. Il faut que vous voyez aussi que quelques jours plus tard, pour bien comprendre l'enthousiasme que l'homme peut avoir, c'est que quelques jours plus tard, le même peuple qui applaudissait quand Jésus entrait, les mêmes femmes qui jetaient leurs habits par terre pour que le roi entre avec l'ânon, c'est le même peuple qui a dit « Libérez Barabbas ». Ça, c'est bien nous, ça. Je suis dimanche à l'église, j'aime Jésus. Dans la semaine, je deviens Barabbas. Des fois, nous souffrons d'une double identité. Identité chrétienne, quand je suis avec les miens, identité païenne, quand je ne suis plus avec les miens. Jésus doit triompher tous les jours dans notre vie. Ce triomphe, il est quotidien dans notre vie. Mais bien aimé, s'il arrive des moments où nous fléchissons, il faut demander à Jésus de nous ressourcer afin de tenir. Parce que c'est toi qui es témoin de l'évangile. Si tu as accepté Jésus, c'est toi qui es témoin. Ce n'est pas le païen qui est témoin. C'est toi qui dois témoigner l'évangile. Et pour témoigner l'évangile, il faut que tu sois la source de la joie. Il faut que Jésus soit la source de ta joie. Il faut que lui soit, c'est à lui que tu adresses un culte. Remarquez la subtilité de l'ennemi. Les Israélites se retrouvent dans Néhémie 12 devant des Lévites et chacun des chantres qui sont là, ils vont jouer de la luth, ils vont jouer de la cymbale et bien sûr, il y a des gens qui vont se mettre à danser pour la gloire de Dieu, je rappelle. Ça nous pousse aussi à nous poser la question sur, à partir du verset 27, les louanges sont adressées à Dieu. Est-ce que quand tu écoutes de la musique, c'est pour la gloire de Dieu? La musique vient du ciel. Et la musique est utilisée pour glorifier le Seigneur. Dans 2 Chroniques 35, les versets 15 à 19, vous pourrez lire ce qui est rappelé au temps de David avec le musicien qui s'appelait Asaph. Asaph est celui qui a écrit pas mal de psaumes dans la Bible. Mais Asaph était un véritable chantre de l'Éternel, comme l'était David. Tous ces hommes chantaient pour la gloire de Dieu. Mais voyez-vous, lorsqu'on lit avec attention la Bible, on peut comprendre comment le diable a détourné la musique. Savez-vous qui est le premier musicien dans la Bible? Vous lirez Genèse 4. Genèse 4, vous verrez le premier musicien dans la Bible et vous verrez que cet homme est le fils d'Élimélec. Élimélec était quelqu'un qui détestait Dieu. Et aujourd'hui, le diable utilise la musique pour éloigner les hommes de Dieu. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin. À chaque fois que vous écoutez une musique où Dieu n'est pas élevé, vous faites un culte à Satan. La musique, c'est pour Dieu. C'est une exclusivité de Dieu. Jamais vous n'irez voir dans le ciel des anges qui chantent « Gloire à Satan, Satan nous aime, gloire à... » Non, non, non. C'est pour Dieu, uniquement pour Dieu, mes chers amis. Et la subtilité, c'est de penser, mais c'est une belle musique, elle est bien écrite, elle parle de l'amour, pourquoi ne pas l'écouter? Non, tu es en train de faire un culte à Satan. J'aime le Seigneur parce que les œuvres qui étaient cachées sont désormais dévoilées. Aujourd'hui, la majorité de ces musiciens ne se cachent pas de dire qu'ils sont illuminati. Ils ne se cachent plus de dire qu'ils ont des pactes avec Satan. Beyoncé, j'ai un pacte avec Satan. Quand je danse, c'est un esprit qui entre en moi, qui me fait bouger, elle le dit. À qui croyez-vous qu'ils chantent? Vous savez, les satanistes ont bien compris qu'ils adorent Satan. Ça m'a pris du temps pour arrêter la musique du monde. Je rends grâce à Dieu. Et à chaque fois, je demande pardon pour toutes ces conneries que j'ai entendues. La musique, c'est pour le Seigneur. Ne l'oublie pas. Quand on a dit « Dieu est la source de ta joie », c'est là l'application. C'est là l'application. As-tu du plaisir à écouter la musique du monde? Pose-toi la question où tu en es avec Dieu. As-tu du plaisir d'écouter la louange pour Dieu? Que Dieu soit élevé dans ta vie. Il nous a dotés de son esprit pour faire face aux ruses du diable. Parce que le diable a des ruses. Satan ne se présentera jamais à vous avec deux cornes sur la tête, une queue, une flèche et vous dire « Je suis Satan, viens à moi ». Non. Il est plus intelligent que ça. Il va te présenter le Jésus que tu veux voir. C'est ça ton Jésus. Tu t'es fait ton Jésus. Dans Exode 20, il nous est rappelé, ah, le Seigneur répond. Dans Exode 20, il nous est rappelé les 12 commandements. Ce matin, je relisais Exode 20. Je vous invite à avoir un livre de lecture tous les jours. Lire un livre de la Bible, au moins un chapitre par jour. C'est très important. Les mêmes textes peuvent être lus, mais Dieu te révèle des choses quelques temps plus tard. Je lisais Exode 20 et je me suis arrêté sur le fait de dire « Tu ne te feras pas d'image taillée du ciel. » Moi qui aimais aller sur Internet regarder les images du trône de Dieu, comprenez la subtilité. Dieu a dit « Tu ne dois pas te faire d'image du ciel. » C'est à l'esprit qu'on révèle l'image du ciel. Ce n'est pas à tes yeux. Ça, tu le verras dans sa gloire. Sinon, tu peux avoir des fausses images. Et le malin vient souvent avec des fausses images, même du ciel. Tu vas penser que ça se passe comme ça alors que c'est faux. Le Seigneur est bon. Il nous fait grâce. Il rebâtit ce que le diable a voulu détruire. Et dans le psaume 54, David nous rappelle « La louange est pour Dieu ». Et tout à l'heure, nous avons vu l'entrée triomphale dans Jérusalem. Jésus dit, même si vous n'acclamez pas, les pierres vont acclamer. Mes chers amis, si tu penses qu'il n'y a que ton adoration sur cette terre qui suffit à Dieu, c'est une erreur. Il est le Dieu de la création. Des milliers d'anges l'acclament tous les jours. Si tu penses que ta petite acclamation de 5 minutes va rassasier le Seigneur, c'est une erreur. Ce Dieu est grand. Ce Dieu est grand. Pour arriver à entrer dans des petits corps comme les nôtres et à mettre son esprit, on voit sa grandeur. Dieu t'appelle à lui rendre un culte agréable. Enfin, je termine sur le fait de dire que vous remarquez dans Néhémie 12 qu'il y a une organisation parfaite. Tout est synchronisé de façon parfaite pour cette fête. Les Lévites ont des tâches bien précises. Les portiers ont des tâches bien précises. Et j'aime cette image parce que ça nous renvoie à l'image de l'Église, dans laquelle c'est un corps qui est harmonieux, où chacun trouve sa place. Ceux qui font l'accueil, ceux qui chantent, ceux qui enseignent, ceux qui nettoient, ceux qui encouragent. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus parce qu'aucun peut dire « Moi, je suis indispensable, il n'y a que moi. » Mais non. Tous sont indispensables. Tous ont une valeur importante devant le Seigneur. La Bible nous rappelle d'abord dans Éphésiens 4, verset 11, il nous est rappelé d'avoir toujours cet arrière-plan des ministères principaux de l'Église. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Toujours se souvenir que toutes ces choses doivent être faites dans l'Église. C'est pour ça que nous avons l'évangélisation samedi prochain. C'est pour ça que si vous avez une prophétie qui concerne, si Dieu vous a révélé quelque chose sur quelqu'un dans l'Église, il faut venir nous le dire pour que nous puissions prier. Parce que toutes ces choses ont été faites pour la gloire de Dieu. C'est l'organisation de l'Église. Et Dieu met son esprit. Dieu a une vision très claire pour son Église. Mais notre difficulté, c'est de comprendre la vision de Dieu. Parce que entrer en présence de Dieu, c'est se dépouiller de notre nature charnelle. Parce que cette nature, il y a inimitié, elle résiste à Dieu. Elle est tirée du sol. Mais c'est l'esprit qui convainc. L'esprit te convainc de suivre ce que Dieu dit. Romains 12, versets 4 à 8, encore un témoignage de ce qu'il faut faire dans l'Église pour nous. C'était harmonieux pour l'époque de Néhémie, ça doit être aussi harmonieux pour nous aujourd'hui. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui possède préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Mes chers amis, plusieurs ministères sont cités ici. J'ai remarqué qu'un des ministères qui est toujours extrêmement regardé dans l'église, c'est le ministère d'enseignement. Mais il n'y a pas que ce ministère, il y en a d'autres. J'aime beaucoup le ministère d'encouragement. Si dans la salle, il y a des frères et sœurs qui prennent le temps de prier pour les autres et d'appeler pour encourager les autres, je dis alléluia, j'aime ce ministère. Parce que dans ce monde, j'ai souvent vu le ministère du découragement. Ces choses sont spirituelles. Elles sont importantes. Et lorsque nous nous saluons, prenons le temps de bien demander comment ça va à l'autre. Ce n'est pas une formule de politesse. Il y a peut-être un besoin spirituel de prière. Mes chers amis, je vous invite en rentrant à la maison à répertorier les noms des gens que vous avez croisés ce matin et à mettre un sujet à côté. Parce que des fois, on se dit, mais comment vais-je faire pour prier pendant une heure? Mais tu as des sujets, prie pour tes frères et sœurs. Ça prendra une heure. Hein? Minimum. Minimum. Si tous les jours, je dois prier pour tous les membres de cette église, c'est minimum une heure. Si ce n'est plus. Dieu nous fait grâce. Dieu nous aime. Je termine en vous rappelant que dans le livre de Néhémie, il est aussi question d'apporter au chantre, vers la fin du livre, on donne la dîme, on donne la dîme aux Lévites, on donne la dîme de la dîme. Ça nous emmène aussi à penser à nous en termes d'offrande. Dans Romains 12, il est dit... Nous devons donner notre corps comme une offrande agréable à Dieu. Ce que je fais de mon corps est une offrande agréable à Dieu. Et le fruit de mon travail est une offrande agréable à Dieu. C'est pour ça que nous vouons un culte à Dieu. C'est pour ça que nous donnons les offrandes à Dieu. 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, vous pourrez lire que désormais nous sommes dans la libéralité de donner sans pincement de cœur. Je ne vais pas donner 50 euros et dire... Ah, j'aurais pu garder 10 euros pour faire des achats à Auchan. Non, 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 non. Ton offrande est déjà annulée. Dieu n'aime pas ça. Quand tu donnes, c'est d'un seul cœur. Ces choses sont agréables à Dieu. C'est ça qui monte jusqu'au Seigneur. Et tu mets ta foi en avant. Oui, tu n'as plus rien. Oui, oui. Dieu est celui qui a toutes les richesses. Il faut que ta foi s'exerce. Les promesses pour toi, peut-être dont tu ne te souviens pas toujours, dans Ésaïe 43, verset 2, il dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Zacharie 2, verset 8, il est dit « Celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. » C'est Dieu qui dit ça, c'est pour toi. Psaume 121, verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 29, verset 11. J'ai des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour toi. Jean 14, verset 7. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Peut-être ce matin, un verset à retenir. Moi, ce verset, je ne le connaissais pas bien. Jérémie 31, verset 3. Il a été cité ce matin. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu te bénisse.